Bonjour, nous sommes en entrevue avec le secrétaire trésorier national du SCFP, Claude Généreux. Bonjour Claude.
Salut Robert.
Claude, pour plusieurs, les résultats du NPD au Québec ont été la grande surprise de l'élection fédérale le 2 mai. Comment expliquer la vague orange?
Pour plusieurs, pour pas dire tous et toutes, en fait, c'était tout un secret bien gardé, cette vague orange-là. À mi-parcours de la campagne électorale fédérale, il y a eu un débat des chefs dans les deux langues, un en premier en anglais. Il a fallu faire avec la saison des sports et du hockey, puis on a eu un autre par la suite en français. Et donc, à mi-parcours, je pense que personne aurait pu poser un tel pronostic qu'il y aurait une telle vague orange. Parce que parfois, des vagues de fond qui s'annoncent, qui viennent de loin, qui montent, puis ils surgissent, puis on le voit au moment, dans ce cas-ci, au moment de l'élection même. Mais je dis au moment de l'élection même, en même temps, dans le journal L'Actualité, qui est un peu comme l'équivalent de la revue Maclean's là, pour les confrères, les consoeurs du Canada anglais, dans le numéro de la mi-juin, il y avait un article qui annonçait effectivement le point de vue de l'élection fédérale vu par la lorgnette du Bloc québécois. C'est intéressant quand même de voir ça aussi, là, parce qu'on parle de la vague orange, le Orange Crush. Le Bloc ne l'a pas vu venir non plus, qu'il est mentionné souvent. Mais on apprend dans cet article-là que des travailleurs électoraux infatigables, il y en a dans tous les partis, des travailleurs électoraux infatigables dans le Bloc avaient venu venir cela. Et la semaine avant, le 2 mai, avant l'élection, le jour de l'élection même, pronostiquaient, prédisaient trois députés seulement au Bloc. Donc les signes, c'est pas juste l'humeur du jour des électeurs, parce que la vague orange, c'est plus profond que ça. Justement, on nous dit la vague orange, ouais, c'est peut-être juste l'humeur d'une journée, la température, comme il y a eu avec l'ADQ au Québec, dans l'élection provinciale, qui avait surgi de nulle part, puis qui ont disparu, sont retournés d'où ils venaient. C'est pas si simple que ça. Puis là, c'est trop simple comme analogie, je partage pas ça. Parce que l'ADQ, effectivement, c'est un parti de droite, un parti populiste, qui amenait des idées simples et simplistes, qui n'est pas capable de regagner le cœur, l'esprit de l'électorat au Québec. Le Bloc, je pense, c'est pas mal plus sérieux que ça. Mais les travailleurs électoraux du Bloc avaient dit à Jean Doucet, à Gilles Doucet, le journée de l'élection, c'est seulement qu'à ce moment-là qu'ils lui ont dit, ils ont dit, écoute, ou bien on en mange une maudite, ou bien on en mange une tabarnak. Alors, c'était assez clair. Hein? Puis effectivement, ça a été toute une méchante claque. Mais pour moi, la vague orange, elle vient de plusieurs facteurs à différents niveaux. La politique, c'est un tout. Hein? Il y a un effet cumulatif. Il n'y a pas rien qu'une élection fédérale qui est détachée des élections provinciales. Il n'y a pas des élections fédérales qui sont détachées des élections municipales. Pour un électeur, une électrice qui est au Québec, quand ils vont voter le 2 mai, ils prennent tout en considération, même s'ils ne votent pas dans l'isoloir pour l'élection provinciale, même s'ils ne votent pas dans l'isoloir pour l'élection municipale. Mais ils prennent tout ça en considération. Et lorsque vous regardez le Québec, parce que c'est du Québec qu'on regarde la vague orange, quand un électeur ou une électrice allait voter, il pensait à la corruption qui existe dans le secteur municipal, dans les villes. En dehors du Québec, on est plus familier ou plus au fait du maire Tremblay, la ville de Montréal, mais partout autour de Montréal, c'est pas si simple que ça. C'est pas bobo, c'est pas joli joli ce qui se passe dans le secteur municipal. Et il y a la mobilisation populaire. Au niveau provincial, le premier ministre Charest, il va l'avoir, lui, sa claque quand l'élection provinciale va arriver. Mais en attendant, il pouvait donner une claque à Tremblay, au maire Tremblay à Montréal. Il pouvait donner une claque au premier ministre Charest, premier ministre du Québec, à deux mains, puis varger, pour parler en bon français de Montréal, varger à deux mains dessus. Puis au fédéral, assez d'Harper. Assez d'Harper. Puis ils ont, en un sens, écouté l'invitation du Bloc qu'il y avait au Québec, qui était de dire, faisons le plein de votes anti-Harper. Et il s'est retrouvé, il y a eu un genre de drôle de retournement. Puis les libéraux, c'est toujours pas une alternative au Québec. Le scandale des commandites, là, quand je parle d'effets cumulatifs, là, ils sont pas prêts à retourner puis, les électeurs, puis dire, il y a une virginité politique, là. Mais le drôle de retournement contre le Bloc, c'est que l'approche que le Bloc a épousée, qui était l'approche du vote stratégique, mais à sa manière québécoise, parce qu'en dehors du Québec, le vote stratégique a toujours nui au NPD. Hein? Quand le Harper se présente au pouvoir, les libéraux disent, votez pour nous, on va faire le plein de votes anti-Harper. Pas besoin de séparer le vote entre les libéraux et le NPD. Et donc, c'était à la faveur du Parti libéral. Cette fois-ci, les gens ont peut-être écouté un peu trop le bloc.
En Ontario, surtout.
Et puis, on l'a vu d'ailleurs en Ontario, le vote stratégique s'est retourné contre les libéraux parce que les gens ont voté pour le NPD. Alors, encore plus cela, encore plus au Québec. On a voté pour le NPD plutôt que le bloc. Parce que, puis il n'y a pas d'assises provinciales vraiment au NPD, au moment où on se parle, d'assises provinciales québécoises, là. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas un parti provincial comme on en a en Ontario, comme on en a dans toutes les autres provinces, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, un parti au pouvoir en Manitoba, puis en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse, pardon. Il n'y a pas d'assises provinciales. C'est pour ça que ça surprend tant les gens. Puis en même temps, ils pensent, ils veulent diminuer l'impact du résultat en disant oh, c'est l'événement d'une journée, ça va disparaître. C'est très sérieux, c'est très important parce qu'il y a une reconfiguration de l'électorat. Puis je finis là-dessus, c'est une longue réponse, je suis désolé pour cette première question.
C'est correct.
Mais au Québec, pendant 40 ans, dans ma vie d'adulte, je n'ai vu qu'une chose dans la politique au Québec. Puis je pense qu'il y a plusieurs générations qui se sont tannées de ça. Il y avait un Front national uni. Un Front national uni qui dissolvait les classes sociales. On appelait à l'unité nationale pour défendre les intérêts nationaux sans prendre en compte les intérêts spécifiques des classes sociales. Donc, les travailleurs, les travailleuses devaient se ranger avec nos employeurs. C'est ça, le bloc. Oui. C'est même l'essence du nom du bloc. Il y a la théorie politique pour dire qu'un front national, ça existait en Europe entre les deux guerres mondiales. Des fronts uniques, nationaux, dissolvaient, gommaient les classes sociales. Alors maintenant, ce qui est en train de se reproduire, c'est un front, mais pas un front national, mais un front unique ouvrier. En votant pour le NPD au Québec, et il y a eu une amélioration des votes du NPD dans toutes les autres provinces aussi, là. En Ontario aussi. Ça paraît moins, on en parle moins à cause de cette vague, ce tsunami d'Orange Croche, mais ça a augmenté partout. Il y a eu, en termes de vote absolu, un petit peu moins à Terre-Neuve, mais on a quand même eu un député de plus à cause de cette polarisation-là entre la gauche et la droite, et c'est ça mon propos. On a une reconfiguration, ce n'est plus un front uninational qu'il y a au Québec, mais les travailleurs au Québec participent, veulent participer à ce front unique, ouvrier, à travers le Canada. Le problème que nous aurons, et peut-être que ce sera dans le reste de notre entrevue, on pourra en parler, le problème, c'est comment peut-on, dans cette reconfiguration-là, préserver les intérêts nationaux aussi que des travailleurs du Québec ont. Ils ne sont pas gommés, ils ne sont pas disparus. C'est toute une tâche. Mais il y a maintenant un front unique ouvrier à travers tout le Canada. Moi, je me souviens, des années 70, on disait à la FTQ et à la CSN, y a-t-il moyen de trouver une formule où on va pouvoir travailler avec la CTC, qui est la FTQ en dehors du Québec, et son parti, qui est la NPD, qui est le Parti des travailleurs. Donc, la NPD, pour devenir l'opposition officielle, bien sûr, il s'est commercialisé en un sens comme étant pas juste le parti de la classe ouvrière, le parti des travailleurs, mais aussi le parti des familles ouvrières, des personnes laissées pour compte. Je comprends ça, mais il ne faut pas perdre de vue le centre de gravité des valeurs politiques qui animent ce parti-là, le NPD. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer la vague orange au Québec. Il y a des travailleurs qui étaient tannés de mettre en attente dans une voie de stationnement leurs propres aspirations de travailleurs. Parce que, puis je suis désolé, c'est un peu long, mais pour moi, le parallèle, c'est qu'il n'y a pas d'aile provinciale au Québec du NPD. Longtemps, le PQ a été identifié comme un peu le NPD au Québec. Mm-hmm. C'était un parti nationaliste, mais qui était celui qui épousait le plus les valeurs de la classe ouvrière. Quand il a été élu dans le milieu des années 70, bien sûr, il y avait des aspirations nationales. Mais il y avait aussi les aspirations nationales des travailleurs qui étaient prises en compte là-dedans, mais en plus, les aspirations spécifiques des travailleurs dans le programme et dans les réalisations du Parti québécois. Il y a eu une loi de santé sécurité au travail qui a été adoptée, une loi anti-scab qui a été adoptée. Il y a aussi des lois de nature sociale qui ont été adoptées comme d'assurance automobile. La loi 101, bien sûr, est cette loi-là qui a permis de travailler dans notre langue. Mais je regarde le parallèle avec le Manitoba, qui dans les mêmes années, dans la même décennie, dans les années 70, a fait élire pour la première fois à l'époque, un gouvernement du NPD. La réalisation législative du NPD au Manitoba, c'est incroyable le parallèle. Lorsqu'on mesure ce que le NPD a fait au Manitoba, puis ce que le PQ a fait au Québec dans cette décennie-là, à part la question bien sûr nationale, que le PQ répondait à ces aspirations-là. Le Manitoba puis le Parti québécois, le NPD au Manitoba et le Parti québécois, ça se ressemblait de façon hallucinante des réalisations. Assurance automobile, la même affaire. L'utilisation harnachée, le pouvoir de l'énergie Hydro-Québec ou Hydro-Manitoba et pour le bénéfice de l'ensemble de la population, comme un moteur structurant l'économie tant du Manitoba que du Québec. C'est hallucinant le parallélisme de ces réalisations-là, de ces deux partis. Alors, le PQ a été longtemps, un peu, pas un peu, a été vu comme. Le parti qui représentait les aspirations des travailleurs aussi. Mais donc, puis là je vais finir là-dessus, sur cette question-là de la vague orange, le PQ, au niveau provincial, s'est éloigné de plus en plus, progressivement, dans ce millénaire des travailleurs et des travailleuses. Ça n'a pas commencé sous l'actuelle direction de Pauline Marois, qui en est la chef. Avant ça, il y a eu Boisclair, et même aussi avant ça, Bouchard, qui n'est rien et qui n'a rien de commun avec les travailleurs et les travailleuses, qui attaque les intérêts des travailleurs et des travailleuses. Alors, les travailleurs se retrouvent de moins en moins. Alors, à un moment donné, ils ont dit, on n'a plus de parti au Québec. Notre parti, si on s'identifie au bloc, au fédéral, en quoi est-il un parti où on retrouve nos aspirations de travailleurs? On ne le voit pas bien, bien. On le voit parfois, mais pas toujours. Puis même les aspirations nationales, je pense que les gens ont réalisé que s'il y en a qui veulent faire l'indépendance, c'est pas à Ottawa qu'elle va se faire, ça sera à Québec, si elle se fait. Donc, longue question, parce que c'est pas si simple, effectivement.
Non,
c'est
ça va.
Pas unilatéral. Mais cette vague orange-là, pour moi, c'est un réalignement de fond où les travailleurs s'expriment enfin. Il faut maintenant s'assurer, pérenniser ça, comme on dit, hein, que ça soit permanent, qu'on ne perde pas notre voix. Parce qu'elle est nouvelle, il faut donc bien l'organiser.
Oui, donc c'est une occasion.
Oui.
Est-ce que, selon vous, il y a des leçons que nous devrions apprendre de cette campagne qui a eu tellement de rebondissements?
Oui, j'en verrais. Il y a plein de personnes qui sont plus sages que moi, qui pourraient en tirer plusieurs, puis je pourrais m'étirer longtemps. Je pourrais en noter trois pour ma part dans le cadre de cette conversation-là. Trois, dont une que j'ai déjà. Une leçon que j'ai déjà retenue, c'est l'effet cumulatif pour les électeurs. Tantôt, je n'ai parlé, hein? On vote dans l'isoloir le 2 mai dernier au fédéral, mais on tient compte de ce qui se passe au provincial avec Charest, de ce qui se passe au municipal avec Tremblay. Ça, c'est au Québec. Mais la même chose pourrait être dite de la Colombie-Britannique. Quand on a voté, on a tenu compte de ce qui se passait au provincial. Ça va faire 10 ans que Campbell est là, le Parti libéral. Il vient d'être remplacé par une dénommée Clark qui a été élue dans une élection partielle pour qu'elle regagne les bancs de l'Assemblée législative à Victoria, en Colombie-Britannique, puis elle l'a gagné par la peau des dents. Donc, c'est pas détaché de l'élection du 2 mai, où on vote pour le NPD, de ces sentiments-là qui existent déjà pour les élections provinciales à venir dans ces provinces-là, parce qu'il y aura 6 élections provinciales cet automne. Pour moi, ça annonce beaucoup, ça annonce que les gens sont prêts à du changement. La deuxième des leçons, je reviens à la première question, quand on disait comment peut-on expliquer la vague orange au Québec. Pour moi, la deuxième leçon, c'est faites attention, tant à l'intérieur du Québec qu'à l'extérieur du Québec, le bloc n'est pas mort. Pourquoi? Je ne suis pas un scientifique, puis la politique, ce n'est pas une science, même si on parle des sciences politiques, c'est un art, c'est humain. Mais je regarde dans un passé qui n'est pas si loin que ça. Dans les années 90, le Parti conservateur était dirigé alors par Kim Campbell. Ce parti-là qui avait été au pouvoir sous Brian Mulroney a connu une telle déconfiture qu'il s'est retrouvé avec seulement, pendant un court laps de temps, avec seulement 2 députés. 2. C'est la moitié de ce que le Bloc a maintenant. Là. 2. À travers tout le Canada. Elsie Wayne puis Jean Charest. Jean Charest en a profité pour montrer sa défection du Parti conservateur fédéral. Il ne voulait pas être sur les bancs de l'opposition. Il est allé au Québec. Il y a un beau siège qui se présentait pour lui, là, qui s'annonçait au Parti libéral. C'était donc un conservateur, un libéral. C'est comme en Colombie-Britannique, Campbell qui est un libéral, qui est un conservateur. Il a changé l'étiquette, ils sont de droite. Donc, on s'est retrouvé pendant un certain temps dans la politique fédérale canadienne avec une seule députée qui tenait le fort, qui tenait le drapeau du Parti conservateur. Elsie Wayne, qui venait de St. John, l'ancienne mairesse de St. John, du Nouveau-Brunswick. Et je vous dis ça parce que moins de 20 ans plus tard, qui vient d'être élu le 2 mai avec une majorité et qui va donc gouverner avec toute sa majorité, avec toute son autorité pendant quelques années, même parti, le Parti conservateur. Alors, Rien n'est mort, rien n'est joué, rien n'est dit. C'est pour ça que je croyais qu'il était important de dire qu'il faut qu'on recombine la question de l'alliance entre les travailleurs du Québec et du reste du Canada, en rendant compte, en tenant compte des aspirations nationales que les travailleurs québécois peuvent avoir. Ça, c'était ma deuxième leçon. Ma troisième, puis je serai court, je pense que je l'ai dit implicitement, si je ne l'ai pas dit explicitement, c'est que cette élection-là a vu une radicalisation, une polarisation entre la gauche et la droite. Certains de la droite étaient rapides à le dire. On était, je crois, à la gauche, plus prudent avant de prononcer ça. Mais c'est effectivement une polarisation gauche-droite, ce qui est tout à fait raisonnable en ce qui me concerne. Et, pardon, j'ai vu en Afrique du Sud une perte d'appui à l'ANC, qui est le Congrès national africain, hein, qui est l'ANC, c'est l'African National Congress, c'est à l'acronyme en anglais, qui est le parti dominant et au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, qui représente toutes les aspirations des Africains du Sud. Et malgré tout, il y a une perte d'élan, une perte d'appui, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent qu'ils feraient, ils ne défendent pas nécessairement les intérêts des travailleurs d'Afrique du Sud. J'ai vu la même chose la semaine dernière en Espagne. Le Parti socialiste est au pouvoir, mais il a gouverné à droite. C'est un parti dit de gauche qui a gouverné à droite. Donc, ils ont payé le prix. Je vois les travailleurs et les travailleuses à plein d'endroits, dans différents continents, voter pour leurs aspirations. Et les partis, c'est pour ça que je parle d'une radicalisation. Les partis n'ont qu'à bien se tenir. Et le NPD devra effectivement pas essayer d'aller grignoter le centre du tableau politique, mais bien sûr représenter nos intérêts comme il faut au Parlement, ceux des travailleurs. Comme je le disais tantôt, le NPD a gagné des votes partout, hein, à Colombie-Britannique, à Alberta, Ontario, partout. Souvent, la vague orange était tellement forte au Québec qu'elle nous éclaire moins, elle nous empêche de bien voir que c'était une vague qu'il y avait partout, en même temps que Harper a augmenté ses votes partout aussi. Donc, c'est le centre de l'échiquier politique qui en a pris un coup. Il y a donc une grande radicalisation et ce n'est pas nécessairement mauvais. On y voit plus clair nous-mêmes comme travailleurs et travailleuses. Puis on voit plus clair le jeu de l'autre côté, qui sont les compagnies qui veulent nous gouverner, qui veulent mettre à sac nos gouvernements, qui veulent mettre à sac nos services publics, nos communautés où on vit, qui voudraient avoir plutôt un grand marché, un grand supermarché, où il y aurait des consommateurs et non pas des citoyens et des citoyennes.
Ça mène bien à la prochaine question. Dans ce nouveau contexte, quels devraient être, selon toi, les dossiers prioritaires du NPD comme opposition officielle?
Ah, c'est tout à fait nouveau, effectivement, d'avoir le NPD en tant qu'opposition officielle. Et comme on le dit dans le langage parlementaire britannique de Westminster, c'est maintenant l'opposition officielle loyale. Et effectivement, on devra jouer loyal, on devra réagir, être toujours au garde-à-vous pour nous assurer que Harper, qui a été élu, j'ai beau ne pas aimer ça, je dois respecter la démocratie. Il a été élu, il va tenter de gouverner à sa manière. Gouverner à sa manière, c'est de continuer à, par exemple, donner des congés, des cadeaux financiers aux compagnies, donner des congés d'impôts aux compagnies. Donc, commencer à étouffer les services publics en ayant moins de revenus. On a moins de revenus, on dit qu'on n'a pas les moyens d'avoir nos services publics. On a donc quelqu'un qui est au gouvernement, qui n'avait pas de gouvernement, de bon gouvernement. C'est ça, un gouvernement, il est là pour assurer le bien-être de la population qui gouverne. Là, il veut s'assurer du bien-être de compagnie. On aura l'occasion d'en reparler de l'imposition, parce qu'il y aura 5-6 élections provinciales aussi, où les gens, au niveau provincial, veulent faire la même chose que Harper. Donc, c'est pas fini ce débat-là. Et il va présenter des budgets. Il va faire que l'opposition officielle s'en prenne aux impôts et aux baisses d'impôts aux compagnies. Ils devraient payer équitablement ce qu'ils doivent payer. Pas plus, pas moins. Mais on ne parle que de pas moins. Moi, je ne veux pas nécessairement parler de plus, ce qu'ils devraient payer et qu'ils ne paient pas. Parce qu'on a tellement baissé depuis 10-15 années et qu'ils payent tellement moins que ne serait-ce qu'aux États-Unis. Harper aime ça, comparer le Canada aux États-Unis. Une compagnie aux États-Unis paie tellement plus d'impôts qu'au Canada. Et pourtant, donc, on est compétitif à ce niveau-là. Les compagnies n'iront pas se sauver en Norvège ou aux États-Unis. On est compétitif. On devra aussi être au garde-à-vous et être l'opposition officielle pour nous assurer que les intérêts des Canadiens et des Canadiennes seront bien défendus sur la question de la santé. Puis là, j'arrive à une question qui est confuse. La santé, c'est une matière de juridiction provinciale. Et souvent, on a attaqué le NPD au Québec en disant que c'est un parti centralisateur comme les autres partis. Sauf que si personne défend la santé comme il faut, qu'elle soit financée adéquatement, on ne défend pas les intérêts des provinces, là. Et c'est pour ça que le NPD, en étant le défenseur d'un système de transfert approprié, qui va faire en sorte qu'il y aura un transversement de ressources du fédéral au provincial, pour que le provincial puisse, dans toutes les provinces, assurer une bonne gestion de la santé, puis dans l'intérêt du monde, avec un financement adéquat, il joue son rôle. Il n'est pas centralisateur lorsqu'il veut parler de santé. Il s'est fait attaquer d'être centralisateur au Québec parce qu'il voulait parler de santé. Non, non. Il faut en parler de santé, sinon on laisse à Harper le champ libre pour revoir ce système-là de transfert social où, depuis une dizaine d'années, à peu près 6 % il y a un facteur d'indexation de 6 % des dépenses qui permet au moins de garder le nez au-dessus du niveau de l'eau et nous permettre de respirer. Si Harper revient là-dessus, on va remettre le système de santé encore plus dans le trouble qu'il ne l'est présentement. En plus, ça se combine ça avec un troisième sujet que je pense que le NPD doit vraiment être au garde-à-vous et assurer de défendre les intérêts de la population canadienne. C'est les traités de libre-échange et celui qui, présentement, il y a des délibérations qui courent présentement en vue d'un futur possible traité de libre-échange avec l'Union européenne, qui s'appelle, l'acronyme en français, c'est l'AECG, l'accord économique compréhensif de... l'accord économique compréhensif... je viens de l'échapper, là. Et global, j'y reviendrai. CETA, c'est en anglais, l'acronyme en anglais, CETA. Comprehensive Economic Trade Agreements. Bon, c'est ça. Il va en arriver pour 2012 un traité de libre-échange avec l'Europe. Donc, on peut dire on a beaucoup à y gagner, on n'a rien à y gagner. Les compagnies européennes aimeraient ça mettre la grappin sur des services publics qui donnent de bons services à la population ici. Donc, si un tel traité de libre-échange, je reviens à la santé tantôt, on n'aura pas plus pour notre argent. Mais il y a des compagnies qui vont s'occuper de donner des services de santé, alors que présentement, c'est des services publics. On n'a rien à gagner avec un tel traité de libre-échange. Rien. Ils ne nous ont jamais dit qu'on aura plus de services ou de meilleurs services. Ce qu'ils nous disent, c'est les sociétés d'État, les monopoles là, publics, c'est pas bon. Mais ils n'ont rien à dire, c'est un monopole privé. Qu'est-ce que j'entends par monopole public? Hydro-Québec. Il dit ça, c'est un monopole public, c'est pas bon ça. Je ne sais pas pourquoi ça serait bon un monopole privé. Il nous dit la même chose pour les sociétés, par exemple, LCBO en Ontario, la SAC au Québec qui distribue l'alcool. Canada Post, Poste Canada est attaqué présentement. Mais il voudrait changer Hydro-Québec pour une compagnie multinationale française comme Suez. Il voudrait mettre la main sur l'eau, l'énergie. En quoi est-ce qu'il y a un gain pour la population canadienne, pour un travailleur canadien ou pour un travailleur européen? Ils nous disent que les postes ont été privatisés en Europe. Est-ce qu'on nous a dit que le service est meilleur pour les Européens? Non. Mais les travailleurs européens au poste gagnent maintenant moins qu'avant. Donc, tout ce qui a changé, c'est plus de profit pour les compagnies. Qu'est-ce qu'un travailleur canadien va gagner au poste si on privatise? Qu'est-ce qu'un travailleur européen des postes va gagner? On nous dit que ça a été privatisé en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas. Ce sont des pays qui sont très densément peuplés. Ici, on n'est pas bien peuplé, pas aussi densément. Est-ce que le même service de poste serait efficace si c'était une compagnie privée, alors qu'il y a des milles à faire dans certaines communautés reculées? Ça me fait penser aux compagnies d'aviation. Hein? Coûte moins cher partir de Montréal pour aller à Paris, ou partir de Vancouver puis aller à Hong Kong, que de partir de Montréal et aller aux îles de la Madeleine, ou partir de Winnipeg et aller à Churchill, parce que c'est comme ça que ça marche, l'industrie privée qui recherche le profit. Alors, il arriverait la même chose si on privatisait Poste Canada. Il n'y a pas de gain pour les travailleurs, les travailleuses, il n'y a pas de gain pour la population. Alors, il faut se battre contre ça. Absolument. Et je dis ça Canada Post parce qu'il y a un possible conflit, ils vont utiliser le conflit. Je pense qu'ils vont le souhaiter, le conflit. Ils vont le désirer, le conflit, pour dire, voici, on a la solution, c'est la privatisation. Et je termine sur le Poste Canada, l'exemple des postes, d'ailleurs, et l'Europe. On ne sait pas beaucoup ça, là. On dit, c'était privatisé dans les trois pays que j'ai nommés. Puis en Europe, ça va être privatisé dans tous les pays de l'Union européenne d'ici 2013. C'est prêt, c'est bientôt 2013. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est qu'aux Pays-Bas, par exemple, dans certaines villes, il y a jusqu'à 6 services de livraison différents. Parce qu'ils ne voulaient pas un monopole d'État. Ils n'ont pas réussi à réaliser encore, parce que c'est assez récent, à ce jour, un monopole privé. Il y a donc 6 livraisons dans votre boîte postale. C'est fou, ça, là. Et ça, je vous laisse, je vous passe tous les accidents que ça cause, les pertes de livraison. Il y a moins de certitude de livraison, il y a moins de sécurité, moins de confidentialité. Alors, je vous donne ce seul exemple-là, mais le traité de libre-échange avec l'Union européenne, danger, danger pour moi, pour ce qui est des services publics. Il y a deux, trois sujets, je termine un peu là-dessus, que le NPD, pas juste réagir, mais doit porter. Pas attendre que le parti au pouvoir amène des idées, puis qu'il les attaque ou qu'il les appuie, mais qu'il doit porter. Et celui de la retraite, une revue du régime de retraite public, pas juste je ne parle pas juste des travailleurs, là. C'est un régime universel pour tout le monde. Il doit porter ce dossier-là parce que c'est une question de justice sociale. Il y a la moitié des personnes âgées maintenant qui sont pauvres, qui vivent dans la pauvreté. Moi, comme syndicat, j'ai intérêt à ce qu'il y ait le moins de pauvres chez les personnes âgées. C'est tout ce que j'ai à dire. Mon intérêt est le même que les citoyens et les citoyennes du Canada. Je n'ai pas d'intérêt distinct comme travailleurs et travailleuses, parce qu'on dit souvent, les travailleurs, les syndicats, vous êtes des égoïstes, vous défendez seulement ce qui vous intéresse directement. Moi, ça m'intéresse directement parce qu'on a tout le monde dans nos familles. Un oncle, une tante, un frère, un beau-frère, un cousin, une cousine, on a quelqu'un qui est pauvre et qui est dans la vieillesse.
Oui.
On doit revoir ce dossier-là. Et ce n'est pas dans le cadre de cette conversation-là que je pourrais donner la solution. Il y en a. On a mis de l'avant à travers le Congrès du travail du Canada, à travers la FTQ, des solutions toutes simples. Il faut donc rester sur le garde-à-vous. Ceci étant dit, sur des questions aussi qui vont peut-être causer des distractions à ces grandes questions-là. Mais ils sont quand même importantes. Mais je dois dire, c'est un peu des distractions. Registre des armes à feu, il est là. Et ça va exciter le peuple quand Harper va se rassayer. Ça, c'est clair, il va se rassayer. Mais je pense qu'avec le nombre, le registre des armes à feu, avec le nombre justement de la vague orange du NPD au Québec, je pense que l'opposition aura une position très claire. Elle aura une position très claire aussi sur des questions. Si jamais Harper veut exciter le peuple, puis quand je dis ça, là, il sait ce qu'il fait, là. Il nous excite, puis après, sur l'avortement, il pourrait nous exciter puis nous mobiliser. Mais je pense que des fois, il essaie de passer en douce d'autres affaires aussi très importantes. C'est pas que l'avortement, ça l'est pas important, c'est tout à fait important. C'était réglé, il me semblait, voilà une génération, que les femmes avaient le droit de décider de ce qu'elles feraient de leur corps. Ça leur appartient. Mais il fait ça des fois comme provocation, puis après, là, on se calme, on a réussi, on pense qu'on a gagné. Pouf, là, il nous rentre une couleuvre dans la gorge, une autre question. Comme le libre-échange. Alors, enfin, donc, il ne faut pas juste réagir, il faut proposer. Et là, comme je disais, le régime de retraite, ça en est un bel exemple. C'est ce que je pense que le NPD, vous voyez qu'il y en a beaucoup dans la besace, il y a beaucoup de choses
oui.
à dire.
Oui. Puis pour le monde syndical, quels seraient tes conseils pour ce mouvement syndical en faisant face aux quatre prochaines années?
Moi, je pense que les résultats électoraux ne sont pas la fin de notre travail qu'on a fait en 2011 sur le front électoral, sur le front parlementaire, sur le front politique, en obtenant que le NPD soit pour la première fois l'opposition loyale officielle au gouvernement. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Puis souvent, on a travaillé fort, l'élection est terminée, puis on pense qu'on peut s'en retourner dans nos terres, dans notre shop, puis dire, ah bon, le travail va continuer, on reprend le rythme, le train-train quotidien. C'est une grave erreur parce qu'après, on laisse le parti dans lequel on y place beaucoup d'espoir, on laisse nos espoirs, puis on n'y met pas d'énergie. On pense que le travail est fini. Non, le travail ne fait que commencer parce que là, on vient d'habiliter le NPD à pouvoir être en mesure de faire maintenant ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Bien, il faut qu'on y participe. Il faut qu'on y participe, même en critiquant, en poussant, s'il ne fait pas ce qu'il nous a annoncé qu'il ferait. On a déjà vu dans d'autres pays, parfois, social-démocratie n'a pas été à la hauteur des aspirations ou des promesses, de nos aspirations ou des promesses qui nous ont été faites. Alors, le travail ne fait que commencer maintenant et il faut, pour que le NPD influence le Parlement le plus possible, dans la meilleure direction possible, que nous, à notre tour, soyons aussi impliqués. Ne pas aller nous reposer dans le pré. Il faut être impliqué dans le NPD et pousser fort pour que ça aille dans la bonne direction. Sinon, il y aura un glissement. Pas dans notre direction, mais un glissement dans une autre direction. Là, on va entrer dans un cycle infernal, on va être frustré, on va vouloir donner la botte au cul, pour le dire en français bien simple, au NPD, puis on va se sentir bien d'avoir fait ça. On l'a fait il y a 15 ans en Ontario, mais à un moment donné, on s'est fait plaisir, mais le plus grand plaisir qu'on pourrait se faire, c'est de nous assurer que ce parti-là ne dérape pas.
C'est mon conseil. Merci beaucoup.
Merci, Robert.